L'histoire du 13e, c'est notamment les immigrés du sud-est d'Asie, du Cambodge, du Vietnam suite au massacre des Mers Rouges et suite à la guerre du Vietnam.
Le 13e, c'est souvent les courses du week-end. Pour beaucoup, c'était le moment où ils allaient retrouver leur famille, ou bien faire des repas tous ensemble, ou faire les courses ensemble. Et voilà, c'était le point de rendez-vous de tout le monde.
Il y a des jeunes générations qui reviennent dans le 13e parce qu'il y a ces solutions, ces boutiques ou d'autres, ou des bubble tea, des cafés, des pâtisseries qui répondent à leurs besoins.
Mais en tout cas, ça bouge très très vite et ça devient de plus en plus cool.
Bonjour, vous écoutez Quartier d'Asie, le podcast du projet de recherche Pôle Asie. Ce podcast s'intéresse à la participation citoyenne des habitants d'origine asiatique en Île-de-France. Il vous amène à la rencontre des associations et des élus dans des villes et quartiers où les communautés asiatiques sont très présentes. Dans cet épisode, Mélanie Hong vous emmène à la découverte du quartier asiatique dans le 13e arrondissement de Paris.
Pour le projet Pôle Asie, on souhaitait étudier un quartier spécifique de Paris qui accueille une importante population asiatique. Paris étant une ville cosmopolite, il y avait le choix. Des quartiers japonais du 2e, coréens du 15e, pakistanais du passage Brady ou sri-lankais de la Chapelle. Mais nous avons choisi de nous intéresser d'abord aux quartiers chinois, vietnamiens, cambodgiens, laotiens de Paris, car cette série est axée autour des communautés issues spécifiquement de ces cultures. Dans ce premier épisode de Quartier d'Asie, je vous emmène donc dans le 13e arrondissement de Paris, aussi appelé Paris 13, le plus grand Chinatown de France et d'Europe, même s'il s'agit en fait d'un Asiatown. Je suis Mélanie Hong, productrice de podcast, mais aussi fille d'immigrés chinois et vietnamiens, créatrice du média Asiatitude et présidente de l'association du même nom. Je vous propose d'explorer ensemble l'histoire et la spécificité de Paris 13 par rapport à d'autres quartiers asiatiques de Paris. Quelle est sa symbolique pour les communautés asiatiques d'Île-de-France ? Et comment ce quartier historique pour la première génération de réfugiés du sud-est asiatique se renouvelle aujourd'hui avec les nouvelles générations nées en France qui le réinvestissent. Il existe plusieurs quartiers à Paris qui concentrent des populations venues d'Asie. C'est ce que m'a rappelé Daniel Tran, conseiller d'arrondissement et vice-président de l'AJCF, l'Association des jeunes chinois de France.
Aujourd'hui, dans Paris, il y a Belleville, il y a Arts et Métiers, il y a le 13e. En dehors du 13e, il y a aussi d'autres villes avec une forte communauté asiatique, avec beaucoup de quartiers asiatiques. On pense à, dans le 77, Lognes, Noisiel, Buis-Saint-Georges. Dans le 93, La Courneuve, Pantin et Aubervilliers. Le 94, c'est Paris. Ivry, Vitry, Villejuif, Choisy-le-Roi.
Les quartiers les plus connus sont surtout investis par l'immigration chinoise. C'est le cas d'Arts et Métiers, Sedaine, Popincourt ou encore Belleville. Arts et Métiers est le quartier le plus ancien, où depuis l'entre-deux-guerres se sont installés des maroquiniers et autres artisans, qui ont ensuite laissé la place à des grossistes en bijouterie qui importent leurs marchandises de Chine, puis à d'autres commerces au fil de l'embourgeoisement du quartier. Il y reste encore quelques boutiques et le siège d'une des plus importantes associations de la diaspora chinoise, l'ACRF, l'Association des Chinois résidant en France. Le quartier de Sedaine-Popincourt a été le centre de l'activité textile chinoise dans la continuité de l'activité des communautés juives. Mais avec le développement de l'import de textiles, lorsque la Chine a rejoint l'OMC, les commerçants ont dû se délocaliser en dehors de Paris, à Aubervilliers. À Sedaine-Popincourt sont nées plusieurs associations professionnelles, comme l'Association des commerçants chinois en France, ou l'Association des commerçants chinois du prêt-à-porter en France. Enfin, Belleville, un peu plus à l'est de Paris, est un quartier de longue tradition d'accueil des flux migratoires. D'abord des provinces de France, puis d'Europe, et plus tard d'Afrique du Nord. L'arrivée d'immigrés asiatiques date des années 80. Des réfugiés du sud-est asiatique trouvent des logements dans les nouveaux ensembles immobiliers, puis de nombreux immigrés chinois arrivent dans les années 90. C'est au cours de ces vagues migratoires que les Asiatiques ont souvent racheté certains commerces de juifs tunisiens. Mais les commerces tunisiens restent assez présents sur le boulevard de Belleville, ce qui en fait un quartier multiculturel. Mais le plus connu des quartiers asiatiques, c'est certainement le quartier dit du Triangle d'Or, ou Triangle de Choisy. Un triangle tracé entre l'avenue de Choisy, celle d'Ivry et le boulevard Masséna dans le 13e arrondissement de Paris, aussi appelé donc Paris 13.
Le 13e, c'est tout simplement le plus grand quartier chinois d'Europe.
L'image d'un Chinatown dans le 13e apparaît effectivement dans la presse française à la fin des années 70. Ce quartier populaire de Paris a connu une transformation au cours des années 70, avec d'un côté un plan de rénovation urbaine et de l'autre l'arrivée des réfugiés du sud-est asiatique. Daniel Tran, conseiller d'arrondissement et vice-président de l'AJCF, l'Association des jeunes chinois de France, et Julia Maïd, journaliste et fondatrice de KOI, le média dédié aux cultures et communautés asiatiques, reviennent sur l'installation des communautés asiatiques dans le quartier.
L'histoire du 13e, c'est notamment les immigrés du sud-est d'Asie, du Cambodge, du Vietnam suite au massacre des Mers Rouges et suite à la guerre du Vietnam. Ils sont venus dans le 13e parce qu'il y avait des tours dans le 13e qui n'étaient pas du tout peuplées, parce que les tours, ça fait logements sociaux, ça fait moche.
Ces tours, ce sont celles des Olympiades, une célèbre esplanade commerciale. S'y sont installés nombre de réfugiés du sud-est asiatique.
Les Parisiens préféraient forcément des immeubles haussmanniens, plus proches de l'architecture française d'une certaine époque. Sauf que pour les Asiatiques, les tours, c'est quand même Hong Kong, Shanghai, c'est la richesse des pays développés. C'est une symbolique complètement différente.
Donc c'est comme ça qu'il y a plein de personnes venues d'Asie du Sud-Est qui se sont retrouvées ici et sur la dalle des Olympiades. Et c'est plutôt des personnes issues d'une immigration sud-est asiatique qu'issues directement de Chine. Alors dans cette immigration sud-est asiatique, on sait que 70 à 80% avaient des origines chinoises. Donc c'était des Chinois du Laos, des Chinois du Cambodge, des Chinois du Vietnam. Mais ils sont passés par l'Asie du Sud-Est avant d'arriver en France dans les années 70-80. C'est pour ça aussi qu'on retrouve des restaurants pan-asiatiques avec plusieurs types de spécialités, avec plusieurs plats à la carte, parce que ce sont des personnes qui ont migré dans différents pays du sud de l'Asie, du sud-est de l'Asie, avant d'arriver en France, et qui, eux, dans leur culture culinaire, ils savent à la fois faire du lok lak, faire un boboon, faire du pad thai, et qu'eux, ils sont arrivés ici et ils ont ouvert des restaurants comme ça. Mais c'est vrai que on retrouve souvent ces cartes multiples en se disant c'est pas des vrais restaurants asiatiques, mais en fait si, c'est juste que les personnes qui les tiennent, qui les ont créés ou qui sont chefs et cuisiniers là-bas, sont passés par plusieurs pays et savent faire plusieurs cuisines.
La filière d'installation des réfugiés du sud-est asiatique reste un peu floue, mais il semble que des Vietnamiens en France depuis longtemps aient été parmi les premiers propriétaires en 73. Ils auraient aidé les réfugiés à louer des appartements dans le quartier et cohabiter souvent avec plusieurs familles dans un même appartement.
Il y a quelque chose qui est assez marrant parce que l'architecture des commerces sur la dalle des Olympiades est faite un peu avec des toits en forme de pagode. Mais ça n'a rien à voir. C'était là bien avant et ça n'a pas du tout été changé pour les nouveaux habitants des Olympiades.
L'architecture a donc, sans le vouloir, contribué à l'image asiatique du quartier. Aujourd'hui, même si beaucoup de familles sont parties s'installer dans des villes limitrophes de Paris, certaines rues et immeubles du quartier continuent d'être habités par une importante population immigrée d'Asie. Et malgré les années qui passent, et alors que la présence des communautés asiatiques dans les autres quartiers d'Asiatique de Paris est aujourd'hui remise en question avec le déplacement des activités vers la banlieue, le quartier asiatique de Paris 13 reste un quartier de référence pour les Asiatiques en Île-de-France. Née à la fin des années 80 de parents chinois et vietnamiens, arrivés en France dans les années 70, je correspond exactement à ce profil. D'abord installée à Paris, ma famille a déménagé pour un logement plus grand à Marne-la-Vallée. Mais pour nous, le 13e, c'était, et ça reste, le quartier asiatique de référence. Cette expérience qui m'est personnelle est finalement assez ordinaire car un attachement particulier s'est créé au fil du temps entre ce quartier et les communautés asiatiques d'Île-de-France. Je l'ai constaté à travers mes rencontres pour Asiatitude, et Julia Maïd a fait le même constat à travers ses interviews pour le magazine KOI.
Alors le 13e, c'est souvent les courses du week-end Ce que nous ont dit nos interviewés, c'est que venir faire ses courses le week-end ou une fois par mois pour ceux qui viennent de région dans les grandes enseignes d'alimentation importées d'Asie, c'était le rendez-vous à ne pas manquer. C'était le moment où on chargeait la voiture avec des sacs de kilos de riz de 25 kilos. Et je sais que pour beaucoup de personnes issues des communautés asiatiques en France, c'est le rendez-vous. Où c'était le rendez-vous avant que ces magasins essaiment un peu partout en France. Mais pour beaucoup, c'était le moment où ils allaient retrouver leur famille ou bien faire des repas tous ensemble ou faire les courses ensemble et retrouver ces produits qui appartiennent souvent aux générations précédentes. Et voilà, c'était le point de rendez-vous de tout le monde.
Le 13e est devenu un point de rendez-vous incontournable des populations asiatiques en Île-de-France. En raison de nombreuses activités qui s'y sont développées, de commerces proposant des produits importés d'Asie et de restaurants qui s'y sont ouverts.
Ils sont souvent installés dans le 13e parce que c'était vide, c'était pas cher, et au fur et à mesure, ils ont lancé un premier restaurant, c'était le Palais d'Asie, le premier restaurant chinois du 13e, ensuite il y a eu le Tricotin, le 2e, et ainsi de suite. Il y a eu énormément de commerces, et aujourd'hui on va dans le 13e, non pas parce qu'il y a des Asiatiques qui habitent dans les tours, mais parce qu'il y a énormément de commerçants, de restaurateurs, de boutiques, de bijouteries, de coiffeurs. Un Asiatique peut trouver tout ce qu'il veut, il y a du Vietnamien, du Cambodgien, du Laotien, il peut aller chez le coiffeur, acheter, faire ses courses, manger en même temps, acheter des cadeaux pour des amis.
Il y a des cours de langue ici, il y a des cours de sport. Il y a des cours de tai chi et des choses comme ça. Il y a aussi d'autres choses qui sont présentes ici qui peuvent être plus anecdotiques, mais je pense que ça a quand même son importance. Des boutiques de médecine traditionnelle chinoise, par exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui traversent tout Paris pour pouvoir venir dans le 13e se fournir, avoir des conseils et une certaine expertise.
On trouve effectivement dans le 13e arrondissement de Paris de grandes associations de la diaspora liées aux régions d'origine. Par exemple, l'Amicale des Tchou, celle des Cantonais, ou encore l'Association des résidents en France d'origine indo-chinoise. La présence de ces associations souligne l'importance de la diaspora chinoise parmi les réfugiés du sud-est asiatique qui ont peuplé le quartier. Elles ont souvent aussi des lieux de culte qui coexistent avec d'autres temples et une église catholique, qui a la particularité d'assurer le culte en chinois. Certaines associations ont été revitalisées par la génération des enfants, par exemple, l'école Khmer de Paris, l'Union des jeunes vietnamiens de France ou l'Association générale des étudiants vietnamiens de Paris y organisent leurs activités culturelles et sportives. Et enfin, la vie associative, c'est aussi celle des entrepreneurs, avec Entreprise 13, qui rassemble les commerçants de quartier, à 90% des commerçants asiatiques, et qui se mobilise pour la valorisation touristique du quartier. Toutes ces associations se mobilisent chaque année pour organiser le Nouvel An lunaire.
Pendant le Nouvel An lunaire et la fête de la Lune, on a 2 voire 3 semaines de festivités. Il y a énormément d'associations qui ont des projets, qui souhaitent montrer. Il y a aussi des entreprises qui nous rejoignent pour sponsoriser les événements et pour aussi aider cette jeune génération à visibiliser leurs projets. Dans le cadre du Nouvel An lunaire, on retient beaucoup aussi le fait que dans le 13e, il y a le plus grand défilé du Nouvel An lunaire de toute l'Europe, pas du monde, hein, mais de toute l'Europe, et c'est organisé par l'association Arfois.
Le défilé du 13e arrondissement est considéré comme le plus important en termes de monde, en termes de spectateurs, lors des festivités du Nouvel An lunaire. Je crois qu'il y a quelque chose comme 150 ou 200 000 personnes qui doivent venir de mémoire. On a fait un article dessus, je crois, dans le numéro 3 de COI, où on avait justement interviewé à la fois les organisateurs du défilé, à la fois certaines enseignes, certaines boutiques qui se préparent, parce qu'il y a tellement de visiteurs qu'il faut avoir des stocks disponibles de produits traditionnels qu'on achète pour le Nouvel An. Et on avait interviewé aussi le maire du 13e, Jérôme Coumet, qui a pu nous dire l'impact que ça a, le rayonnement qu'a ce défilé-là, à la fois en Île-de-France, en France et parfois aussi en Europe, parce qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse, d'Angleterre pour voir ce défilé.
Le quartier est devenu un lieu de vie au-delà de son périmètre, qui est connu sur tout le territoire français et même au-delà. Les restaurateurs et les familles de toute la France viennent s'y ravitailler. 2 grands supermarchés, que vous devez sûrement connaître, sont des symboles du quartier, Tang Frères et Paris Store. Aujourd'hui, ils sont devenus des enseignes de référence pour les populations asiatiques en France et ont ouvert de nombreuses succursales.
En fait, il suffit de suivre où sont implantés les magasins Tang Frères et Paris Store. Et vous savez où sont les communautés asiatiques en Ile-de-France et même en France.
Le 13e a été un espace de repère fort pour les premières générations d'immigrés. Il le reste pour leurs enfants et leurs petits-enfants et de nouveaux acteurs de la vie sociale, commerçants et culturels. Ce quartier se renouvelle sans cesse à travers ses restaurants, son offre culinaire et aussi sa vie associative. C'est un quartier en phase de renouvellement, voire d'institutionnalisation, comme un lieu de référence identitaire. Au niveau politique, le 13e est le premier arrondissement de Paris à avoir élu un conseiller d'arrondissement d'origine sino-cambodgienne, Buon Tan, également devenu conseiller de la ville de Paris, puis député. Et aujourd'hui, les personnes issues de l'immigration asiatique sont nombreuses sur les listes municipales et 3 sièges au conseil d'arrondissement, ce qui renforce l'encouragement de la valorisation des cultures asiatiques dans l'arrondissement. C'est ce que me rappelle Daniel Tran, qui est un de ses élus.
Et la mairie du 13e, bien avant mon arrivée à la mairie en 2020, avait déjà consacré un budget, un temps fort même, d'événements pendant le Nouvel An lunaire et la Fête de la Lune.
Les initiatives se sont développées grâce aux entrepreneurs, aux élus du quartier, qui se sont mobilisés depuis une quinzaine d'années pour le valoriser, en faire un quartier asiatique touristique. Ils ont obtenu d'être labellisés zone touristique en 2012, se sont mobilisés pour la création d'une porte selon la tradition des Chinatown dans le monde et œuvrent pour que les cultures des différentes communautés asiatiques présentes soient valorisées dans la ville. Au cours des années 2010-2020, les enfants des immigrés chinois et du sud-est asiatique, qui n'ont pas forcément grandi là, mais y sont attachés émotionnellement parce qu'ils y ont fait les courses, qu'ils y sont allés pour les fêtes de famille, les anniversaires, les mariages, ont assisté à des cours de langue, ont initié des activités.
Il y a forcément un attachement entre les jeunes générations et le 13e.
Cette génération, celle à laquelle j'appartiens, est aujourd'hui trentenaire et réinvestit ce quartier, que ce soit physiquement, en s'y installant, ou à travers des événements, des objets culturels, récits biographiques, films de fiction, podcasts. Julia Maïd, par exemple, qui est journaliste et fondatrice du Koi Magazine, n'y a pas grandi, mais y réside aujourd'hui et y a installé le siège de son média dédié aux cultures et communautés asiatiques.
C'est un très très grand arrondissement. Il y a une grande mixité sociale et culturelle. Il y a plein de choses géniales en fait dans le 13e, à la fois des endroits historiques, à la fois des petits cafés branchés, il y a beaucoup de street art, c'est assez jeune. Donc, c'est vraiment un arrondissement que j'aime et que j'ai plaisir à découvrir. Je m'y sens bien ici, je trouve ça chouette d'avoir plein de restaurants asiatiques en bas de la maison, de voir des gens qui ressemblent à une partie de ma famille, c'est quelque chose qui me plaît aussi.
Concernant la production culturelle, il y a de nombreux exemples. Grace Lee, qui est réalisatrice, podcasteuse, autrice du roman Jeune fille modèle, a multiplié les références au 13e, à la fois sur son premier blog culinaire, puis dans ses différentes créations culturelles. Un des romans de Doane Bui, qui est journaliste, est intitulé La Tour et fait référence au tour du 13e arrondissement de Paris. Il raconte la vie quotidienne des familles dans ces habitations où les cultures et générations cohabitaient. Tour d'exil, un documentaire de la réalisatrice Jenny Teng, il fait également référence. Enfin, Made in China, à l'initiative de Frédéric Chaud, acteur, réalisateur, est le premier film français dont le casting est majoritairement constitué de comédiens d'origine asiatique, et la plupart des scènes de ce film assez symbolique en termes de représentation des communautés asiatiques françaises au cinéma se situent dans ce quartier. Preuve de l'importance de ce quartier et de l'attachement qu'il suscite encore, le 13e arrondissement de Paris est très présent, que ce soit comme environnement pour s'y installer ou comme élément majeur dans les créations de cette génération d'entrepreneurs et d'artistes asiatiques. Le 13e est également investi physiquement par de nouvelles associations et acteurs culturels, à travers par exemple des événements qui visent à valoriser les cultures asiatiques. La JCF, Association des Jeunes Chinois de France créée en 2019 et dont Daniel Tran est vice-président, est la première association nouvelle génération qui a investi cet arrondissement.
On a proposé plusieurs projets dans le cadre du Nouvel An lunaire et de la Fête de la Lune. Notamment en 2018, lors du centenaire de la Première Guerre mondiale, de l'armistice, en février 2018, on a fait une projection sur le film Les Travailleurs chinois de Karim Oufaïd à la mairie, qui a eu un grand succès. Ensuite, l'année d'après, c'était les 100 ans du mouvement Travail-Études, l'arrivée de Deng Xiaoping, de Chou Enlai en France, et pareil, on a travaillé pour diffuser un film sur ces relations franco-chinoises. Et donc le 13e, c'est juste que voilà, il y a cette possibilité de pouvoir faire des événements qui vont dans le sens des objectifs de la JCF, comme promouvoir la culture franco-chinoise et puis faire en sorte que la société française comprenne mieux aussi cette immigration chinoise. Et après ces événements qu'on a fait à la mairie du 13e, dans le cadre du Nouvel Lunaire, la JCF s'est installée aussi dans la maison de la vie associative et citoyenne du 13e. Donc c'est aujourd'hui notre siège est dans le 13e.
Plus récemment, encouragé par la mairie du 13e arrondissement, un collectif de médias et associations consacrés aux identités asiatiques a organisé un festival à l'occasion du Nouvel An Lunaire. Le collectif était composé de l'AJCF, de Banmi Media, des John Tichu et d'Asiatitude.
Ça s'est déroulé sur un week-end, lors de la fête des lanternes, donc 2 semaines après le Nouvel An, le week-end, il me semble, du 4-5 février, au Digital Village. Et donc pendant tout un week-end, il y a eu un marché de créateurs, de créatrices, des podcasts, des projections débats. Pas mal d'activités dans un même endroit, contenu sur un week-end, qui a fait un carton, il y avait énormément de personnes.
Ce festival a réuni les membres des associations organisatrices, des Français asiatiques de toute génération, des artistes, des réalisateurs, des chanteurs, des humoristes, des photographes, des activistes, et a attiré de nombreux visiteurs. Asiatiques, mais pas uniquement. La programmation proposait aussi bien des tables rondes que des contenus culturels sur des sujets d'identité, d'histoire, et des produits gastronomiques, de savoir-faire ou des activités culturelles. Ce renouvellement au niveau des activités ou des associations s'observe également du côté de l'offre de restauration. Après une génération de restaurants ouverts par les réfugiés du sud-est asiatique et qui proposaient un cadre et une carte fidèles aux recettes traditionnelles de leur pays d'origine, une nouvelle génération de restaurants voit le jour depuis quelques années. C'est ce qu'ont bien analysé Daniel Tran et Julie Amaïd.
Et aujourd'hui, les restaurants, on voit très bien que les nouvelles générations, quand ils ouvrent des restaurants, la carte, elle est très simple, c'est recto verso, juste quelques pages. Et c'est une cuisine avec des concepts qui sont différents des plats que faisaient nos parents et qui sont importés de toutes les régions d'Asie et même de la Chine.
C'est-à-dire que dans le 13e, on a toujours eu des cantines asiatiques, souvent sud-est asiatiques, vietnamiennes, cambodgiennes, un petit peu chinoises. C'était pas forcément des endroits branchés, c'était pas forcément des endroits où les non-initiés allaient pousser la porte ou sinon fallait qu'ils connaissent quelqu'un, etc. Il y a eu beaucoup de stéréotypes aussi sur les restaurants et les restaurateurs. Et depuis quelques années, on voit des changements.
Les changements peuvent intervenir lorsqu'un restaurant ferme, que ce soit pour des raisons économiques, pour absence de repreneur, ou même lorsqu'il est repris par les enfants qui souhaitent changer la carte ou le concept proposé. L'offre de restauration n'est alors plus liée à la culture culinaire du pays d'origine du restaurateur, mais à ses influences personnelles. Les jeunes générations veulent aujourd'hui renouveler et moderniser en s'inspirant d'autres pays.
La plupart font, voilà, ils voyagent en Chine, ils voyagent au Vietnam, ils vont au Cambodge, ils vont voir, ah bah tiens, ça marche dans leur pays. Tiens, il y a des bubble tea au Taïwan. Allez, on va aller en France mettre des bubble tea. Tiens, les rôles de printemps, il y a des nouveaux concepts de rôles de printemps, on va faire la même chose. Il y a des burritos sushi, allez, on va essayer ça. Enfin, il y a aussi des fusions. On est dans une période très moderne de mondialisation. Il y a des échanges entre de cultures de différents pays. Et donc, il y a des nouveaux concepts qui se créent partout dans le monde.
Déjà, il y a eu l'arrivée des bubble tea qui a complètement transformé le 13e. On voit de nouvelles enseignes, d'ailleurs qui ne sont pas forcément chinoises ou sud-est asiatiques, coréennes, japonaises, etc., qui deviennent un peu plus branchées, qui arrivent avec une direction artistique hyper travaillée. Parfois des chaînes internationales, comme Shin Futang, par exemple, ou Pablo. Et en fait, c'est vraiment des marques qui sont installées en Asie et qui arrivent en France, qui choisissent de s'installer dans le 13e et qui font venir, du coup, une population qui est différente.
La transformation de l'offre de restauration, sa modernisation, incite les enfants et petits-enfants d'immigrés à réinvestir le quartier, mais aussi les populations jeunes en général, asiatiques ou non, à fréquenter ce quartier. Le 13e attire désormais un nouveau public, plus jeune, plus diversifié.
Il y a des jeunes générations qui reviennent dans le 13e parce que justement, il y a ces solutions, ces boutiques ou d'autres, ou des bubble tea, des cafés, des pâtisseries qui répondent à leurs besoins.
Des gens branchés, un public très divers, très multiculturel, etc. Et c'est plus juste les parents, les tatas qui allaient dans les cantines habituelles.
Bon, ça c'est aussi c'est la transformation de tous les Chinatown en ce moment.
Ça bouge très très vite et ça devient de plus en plus cool.
C'est devenu vraiment un écosystème très complet.
Paris 13 est donc un quartier très particulier pour les communautés chinoises et d'Asie du Sud-Est en Île-de-France, et les raisons en sont multiples. Le quartier abrite une importante population asiatique arrivée dans les années 70 et 80. Il concentre des commerces d'alimentation, des restaurants, une vie culturelle et associative riche qui suscite un fort attachement et en fait un symbole identitaire. Et enfin, ce quartier connaît un renouvellement qui attire un nouveau public, plus jeune et plus mixte. De quoi peut-être assurer sa longévité pour les années à venir. Vous venez d'écouter un épisode de Quartier d'Asie, le podcast du projet Pôle Asie produit par Bonjour Podcast. Vous pouvez écouter les autres épisodes de cette série, disponibles gratuitement sur toutes les applications d'écoute de podcast. Production exécutive, Bonjour Podcast. Écriture, entretien, voix off et réalisation, Hélène Lebaye, Yaran Chuang, Mélanie Young. Montage et mixage, Morgane Bouchiba.